Bonjour tout le monde. Je pense qu'il serait utile que nous continuions notre pénétrante étude de Shmoné Esrei. Pour autant que je sache, nous sommes dans la deuxième bénédiction des demandes, des requêtes. Nous avons donc commencé par Atachonel Adam Da'at, c'est la bénédiction dans laquelle on demande la connaissance. On avait compris que dans l'ordre des bénédictions, c'était la première, parce que c'est elle qui demande ce qui fait que l'homme est un homme, c'est-à-dire la connaissance. Un homme sans la connaissance n'est pas un homme, à proprement parler, à moins qu'il y ait un accident. Et nous allons passer donc à la bénédiction à venir, qui est celle de la Teshuvah. Maintenant, pourquoi est-ce que cette bénédiction apparaît à ce moment-là? Parce que tant qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de retour. Parce que pour faire un retour, il faut être conscient de l'éloignement. Or, je ne sais pas que je suis éloigné tant que je n'ai pas la connaissance. Donc la connaissance est la première condition. Dès qu'il y a connaissance, il y a nécessité du retour. Ah, il y a un éloignement métaphysique, si tu veux. Ça, c'est à Kadosh Baruch Hu qui est loin. Mais est-ce que moi, je suis loin? Ça, c'est autre chose. Voilà. J'allais demander qu'on lise le texte, mais il y a eu la providence qui est arrivée pour me donner un signe. C'est très, très bien. Toda Rabba.
Voilà. Ah, je pense
que t'es bien baisé. Quoi? C'est le problème. Alors voilà, nous allons donc maintenant lire la deuxième bénédiction. Ashivenu. Avinu le Toratecha. Ramène-nous, ô notre Père, à ta Torah. Vekarevenu, malkenu l'avodatecha. Rapproche-nous, ô notre Roi, de ton service. Veahazirenu, bitshuva, shelema lefanecha. Ramène-nous, en une teshuva, en un retour entier devant toi. Baruch ata Hashem arotze bitshuva, source de bénédiction tu es, qui désire la teshuva, le retour. Bon. Alors, comme on a expliqué, pour faire un retour, ça suppose qu'on se sait loin. Or, on se sait loin uniquement après avoir la connaissance, donc il faut d'abord demander la connaissance, et alors on est conscient de l'éloignement. Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Vous savez, quelle est l'origine de toute chose d'après la Torah? Pas précis, pas exactement. C'est-à-dire qu'on dit Akadosh Baruch Hu, ça voudrait dire que tout est extrait d'Akadosh Baruch Hu. C'est faux. L'origine de toute chose, c'est la création. N'est-ce pas? C'est-à-dire, toute chose, d'après la Torah en tout cas, est créée. Tout être est créé. Ça veut dire que il n'a pas son existence de par lui-même, son existence lui est donnée. Même pas seulement son existence, son être, l'être même, est donné par le Créateur. Et donc, ça veut dire que mon origine, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça, mon origine est en dehors de moi. Je viens d'ailleurs. Si je viens d'ailleurs, et que j'en ai conscience, eh bien, ça crée en moi la nostalgie, le désir du retour à l'origine. C'est un truc qu'on trouve souvent, ça. Oui? Ah, alors on peut étendre ça également à la nostalgie de l'origine géographique, Eretz Israël. Mais là, je parle d'Israël, de l'origine de tout être. On a une nostalgie, tu as raison, il y a une nostalgie de l'origine en tant que le Créateur. Il y a une pulsion qui pousse tout être créé à rencontrer à nouveau son origine.
Mais oui. Quelque chose de très grand comme le monde.
Le monde aussi, il a son origine. Donc le monde. En lui-même, non, puisque le monde est créé.
Si.
Oui, alors ça le problème. C'est-à-dire, si on sait que l'on est créé, alors on a cette nostalgie. Si on oublie qu'on est créé, on n'a pas cette nostalgie. Le monde, il sait aussi qu'il est créé. La preuve, c'est qu'il a été créé. On le sait parce qu'on a lu la Torah, mais aussi, on le sait aussi parce que c'est vrai. Ça dépend ce que j'appelle logique ou pas logique. C'est-à-dire, le problème de savoir est-ce que le monde est créé ou pas créé, c'est sur le plan philosophique, c'est pas tranchable. Ça s'appelle une antinomie de la raison pure. Oui. Il y avait un goy du nom d'Emmanuel Kant. Il a écrit un gros pavé qui s'appelle « Critique de la raison pure ». Dans la critique de la raison pure, Emmanuel Kant parle des antinomies de la raison pure. C'est quoi une antinomie? Ce sont des questions qui, par essence, ne sont pas solvables. Telles que la question de savoir si le monde est créé ou pas. Alors, il fait un très bel exercice de style là-bas. Il amène une preuve extrêmement détaillée de ce que le monde est créé. Il amène parallèlement une autre preuve que le monde ne peut pas être créé, mais qu'il est éternel. Et il explique que sur le plan logique, les deux preuves sont valables. Donc c'est une antinomie de la raison pure. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de la quand tu dis que c'est pas logique, c'est pas absolument vrai. Oui, alors celui qui... Oui, bien sûr, c'est ta raison. C'est grâce à la Torah, nous savons des tas de choses. C'est pour ça que celui qui fait la prière, il a lu la Torah. Enfin, il sait. C'est-à-dire que la prière est sur la base de la Torah. Rappelle, c'est pas la prière qui invente la Torah, c'est la Torah qui invente la prière. D'accord ? Et donc, nous savons que nous sommes créés. Maintenant, il est possible que d'autres le sachent également sans avoir lu la Torah. En tout cas, le cosmos en tant que tel, lui, il sait qu'il est créé, donc il a cette nostalgie de l'origine. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en hébreu bara. On a étudié ça à propos du livre de Bereshit, que bara, Bereshit bara Elohim, au début Dieu créa. Si on se base sur l'étymologie en araméen, le mot bara veut dire à l'extérieur, dehors, n'est-ce pas ? Bara, comme on dit en arabe, c'est-à-dire oust, n'est-ce pas ? Ou comme on dit en anglais, ex-ist, en dehors, être, existence, c'est être en dehors. C'est-à-dire, c'est le sentiment qu'on a été issu de quelque chose. On est éjecté. Et donc, si on m'a jeté, ça crée en moi le désir du retour. D'accord ? Donc, mais ça, ce n'est possible que si j'en ai la conscience. Alors, la conscience, elle peut me venir de ce que j'ai lu la Torah, ou bien d'un surplus d'intelligence, ou une révélation. Et tout ça, ça dépend de la bénédiction précédente. Ata chonen adam da'at, tu donnes à l'homme la connaissance. À partir du moment où il a la connaissance, il a la connaissance de son éloignement, et donc il veut le retour. Oui ?
Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, là.
Oui.
En fait, tout ce qu'on demande, c'est quasiment la même chose. La chimie de l'homme, je ne le connais pas. Et après, on dit, en dernier, la phrase de l'homme, je vois, c'est mal et pas les femmes. Qu'est-ce que ça change de nous ramener à sa Torah et de nous ramener à la Tchouva ?
C'est-à-dire que tu supposes que nous avons déjà expliqué le texte de la bénédiction et qu'il te reste des questions sur notre explication. Le problème, c'est qu'il me semble que nous n'avons encore rien expliqué, nous avons simplement lu, un peu traduit, mais c'est tout. Pour l'instant, j'en suis, dans ma faiblesse, uniquement à l'introduction de la bracha. D'accord ? Et donc, je pense que pour l'instant, nous pouvons repousser le débat. D'accord ? Donc, je voulais dire que le retour est implicite dans le fait même de la conscience d'être créé. Si je sais que je suis créé, donc je fais teshuva. Si je ne sais pas que je suis créé, rien ne me porte à faire teshuva. Faites bien attention au fait que la teshuva ici n'a rien à voir avec le péché. C'est un retour de l'être. Ça, c'est en permanence, je suis porté à me rattacher à mon origine. Maintenant, qui sait, qui parmi les hommes sait qu'il est créé ? Le sadique ou le rachat ? Nous avons ici donc plusieurs réponses qui ont été proposées par la noble assemblée. Le sadique, le rachat, les deux.
Aucun des deux.
Un peu le tchadik.
Le rachat, c'est ça. Je t'aurais dit que même ceux qui n'ont pas lu la Torah n'osent pas qu'ils soient rachats, ceux qui n'ont pas lu la Torah, mais. C'est-à-dire que même les autres, quoi, ils savent.
Même les plus grands déchets qui sont sur terre, c'est pas la vie.
Bon, disons comme ça. Je comprends toutes vos réponses. Je voudrais quand même faire une petite remarque. Le tzaddik est quelqu'un qui n'a pas été corrompu par le péché. Donc, il y a plus de chances qu'il ait une connaissance, on pourrait dire naturelle, de la vérité. Donc, le tzaddik, naturellement, est porté à ce retour, à ce mouvement du retour. Tandis que le rachat, nous avons un texte de Chacham qui nous dit « Avera metamtemet libo shel adam » Le péché rend le cœur de l'homme opaque. C'est-à-dire, quand je fais le péché, je crée en moi une nouvelle conscience. J'ai le sentiment d'être moi la source de mon être. Je me prends pour un petit Dieu, en fait. C'est ça que fait le péché. Le fait même de se révolter contre le Créateur, cela suppose que j'ai l'autorité de me révolter. Donc je me prends pour un Dieu. Donc j'oublie que je suis créé. C'est ça qui fait le péché. Donc, faire teshuva quand on a fait le péché, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à admettre. Il est beaucoup plus évident de faire teshuva quand on n'a pas péché que lorsqu'on a péché. Donc, si vous voulez, la teshuva, à l'origine, c'est pour le tzaddik gamour, celui qui n'a jamais fait de péché. Et puis, il y a un miracle dont la Torah nous parle, que même le pécheur, il peut faire teshuva. Lui aussi peut. D'accord ? Et je vous avais dit qu'il y a des grands réchaïm qui se réfèrent quand même à Dieu. Oui ? Oui, exactement.
Et quelqu'un qui n'a pas la conscience de Dieu,
Quelqu'un qui n'a pas la conscience de Dieu n'a pas de péché. C'est pas un péché. C'est une révolte, c'est la révolte contre quelqu'un. Si le quelqu'un est en dehors de ma conscience, il n'y a pas de révolte. Par exemple, quand un petit bébé fait pipi sur un roi, est-ce qu'il est pécheur? C'est très grave de tâcher un roi. Il n'est pas responsable. Oui. Hein? Bah, c'est alors de Mincha que la Tefila. Ça dépend ce que ça veut dire. Il faut même savoir c'est quoi un athée. Parce qu'un athée, c'est une expression extrêmement vague. Il y a l'athée, celui qui, pour qui la chose divine ne signifie rien. Ce n'est pas un athée. C'est un ignorant. Il est en dehors du coup. Ça ne veut rien dire pour lui. Il y a celui qui est en révolte contre Dieu. Ah, donc pour lui, Dieu existe. Et puis il y a celui qui pense que Dieu n'existe pas. Alors là, c'est déjà extrêmement rare. Il faut avoir une conscience philosophique extrêmement développée pour pouvoir affirmer des choses pareilles. On raconte qu'un père assimilé, qui arrive d'Europe centrale en Europe occidentale, décide que son fils ira à l'école communale, et puis que l'assimilation s'avalait bien rapidement. Alors, mon cher fils, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Eh bien, papa, nous avons appris la religion. Ah, tiens. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Eh bien, on nous a dit qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que tout cela est une seule chose. Le Père se met en colère et dit, mais pas du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas de corps, et c'est en lui que nous ne croyons pas. D'accord? Oui?
Mais alors, comment on sait que mon cher Benou, quand il a pris la couronne de parents, il était responsable ou responsable de ses actes? On a dit que c'est comme quelqu'un qui ne sait pas et qui fait quelque chose.
Ah, pourquoi est-ce que Pharaon est responsable?
Ouais, non, il a accusé Moïse d'être responsable de prendre sa couronne.
Puisque c'est un... Ah, tu parles du petit Midrash, là, comme ça?
Ouais.
Le Midrash où Moshe, il fait tomber la couronne du Pharaon.
Oui.
Parce que le Pharaon est un superstitieux.
Sinon?
Absolument. Bon, alors donc, nous allons continuer. Très décevant, oui. Mais enfin, on ne peut pas... Écoute, on ne peut pas toujours être à la hauteur de tes demandes. Bon, alors, je reviens donc sur Achivenu. Donc, ramène-nous. On voit bien que ça n'a rien à voir avec la teshuva, avec les péchés. Parce que les péchés, ils sont mentionnés où? Dans la bénédiction qui vient après. C'est l'Achlanu Avinu, qui Hatanu. Pardonne-nous, notre Père, parce que nous avons péché. Donc, si on parle du péché dans la bénédiction qui vient après, ça veut dire que dans la bénédiction actuelle, on ne parle pas du péché. Hein? On n'a pas encore péché. Mais on a la conscience de l'éloignement. C'est-à-dire, c'est la prière du tzaddik à Shivéno, celui qui n'a pas péché. Oui ? Non, pas d'être pardonné. On ne s'est pas éloigné. On est loin. On est loin du fait même d'être créé. C'est un éloignement. C'est, on nous a éloignés. Et donc, on veut revenir. C'est la nostalgie métaphysique des âmes. D'accord ? Ashivenu avinu, le Toratecha. Ramène-nous, notre Père, à ta Torah. Qui c'est qui dit ça ? Cette prière est récitée également par des Talmidei Chachamim, qui sont bourrés de Torah jusqu'aux oreilles, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il qu'un Talmid Chacham qui est bourré de Torah jusqu'aux oreilles demande à revenir à la Torah? On peut dire que ça parle du Klal, oui. Qu'est-ce que tu veux? Et ça veut donc dire que tout le monde est éloigné de la Torah d'Hachem. C'est-à-dire, Torah te cha, ramène-nous à ta Torah. C'est-à-dire, la nôtre, ça, on en est plein. Mais la tienne, on en est loin. Alors, c'est quoi la Torah d'Hachem? C'est quoi notre Torah, si tu veux? Oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais bien comprendre vers quoi on veut revenir. Alors, il écrit ta Torah. Alors, il y a, par exemple, dans le livre de Tehilim, le livre des psaumes, premier chapitre, Asheré Haïch, heureux est l'homme. Asherlo alar ba'atzat reshaim, qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Ufderech hataim lo amad, qui ne s'est pas tenu dans le chemin des pécheurs. Uvmoshav letzim lo yashav, qui ne s'est pas installé dans l'assemblée des moqueurs. Kiim, mais betorat Hashem chevtzo, qui a le désir de la Torah d'Hachem. Et la suite, Uvetorato Yehege Yoma Valaila, et qui s'occupe de sa Torah jour et nuit. De sa Torah à qui?
À lui.
À lui, à l'homme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux Torahs. Il y a la Torah de Dieu et il y a la Torah de l'homme. Alors la nôtre, ça nous l'avons. Mais la tienne, on ne l'a pas. C'est quoi la Torah d'Hachem? C'est ça qu'il faut expliquer. C'est la Torah qui nous fait connaître Akadosh Baruch Hu. Il y a deux manières d'étudier la Torah. Il y a celui qui étudie la Torah pour savoir ce qu'il doit faire. Je veux savoir comment organiser ma vie religieuse. Finalement, c'est une nécessité humaine. N'est-ce pas? Je veux savoir comment, à quelle heure c'est Mincha, etc. D'accord? Ça, c'est, je veux savoir par exemple, est-ce que les boulettes que j'ai cuisiné pour Shabbat, dans lesquels mon petit gosse a jeté quelques gouttes de lait de son biberon, est-ce que je peux le manger ou pas? D'accord? Non, pas forcément un gâchis. Il y a différentes manières de voir ça. Il faut étudier le cas. D'accord? Ça dépend du cas. Pourquoi? Tu as ton petit-fils qui a jeté des... Et au cas où. Alors, il faudrait étudier ça. En tout cas, il y a une Torah, donc, qui s'occupe de ça. D'accord? C'est la boule. Tu vois, mon fils, il y a deux boulettes pour qu'il t'attende dans le frigidaire. Maman, il n'y en a qu'une. D'accord? Ça, il n'y en a qu'une, maman. Et donc.
Il n'y a qu'une maman.
Ouais, maman, il n'y en a qu'une. Voilà. Bon. C'est ça. Ouais, bon, c'est du classique, ça. Bon, en tout cas, il y a celui donc qui étudie la Torah pour savoir ce qu'il doit faire. C'est finalement un besoin pour lui. Ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Il y a celui dont l'étude de la Torah lui permet de comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait différent. Par exemple, il y a une question qui est posée par le Maharal de Prague dans son introduction à Tiferet Israël, son livre sur la Torah, sur ce que c'est que l'essence de la Torah. Et il pose une question extrêmement dure. La question que pose le Maharal de Prague, j'espère que vous n'allez pas tomber de vos chaises, il dit, mais pourquoi est-ce que les rabbins n'aiment pas Dieu? N'aiment pas Dieu. Il répond, bah parce qu'ils aiment la Torah, donc ils n'ont pas le temps d'aimer Dieu. Il le dit, hein, en toute lettre. Alors ça dépend. Si on sait que la Torah est désirable, aimable, parce qu'elle vient de Dieu. Alors dans ce cas-là, l'amour de la Torah est un épanchement de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais si on oublie que cette Torah, elle vient de Dieu et qu'on a un plaisir intellectuel à son étude, et que c'est pour ça qu'on étudie, alors on a oublié d'où elle vient. Alors on n'a pas le temps d'aimer Dieu puisqu'on aime la Torah. C'est ce qu'il répond. D'accord ? Alors on peut dire donc qu'il y a une sorte de péché constant du peuple d'Israël, c'est d'avoir oublié Torah Terra. Donc Ashiveno Avinu, les Torah Terra. C'est pour ça que dans le livre de Tehilim au chapitre 19, XX, en latin, on dit Torah Tachem. XX, c'est 19. D'accord ? On dit Torah Tachem Temima. La Torah de Dieu est entière, parfaite. Alors, plusieurs de l'Israël ont expliqué, ça veut dire quoi, entière ? Personne ne l'a encore touchée. Elle est restée intégrale. Torah Tachem. Donc, c'est pour ça qu'on demande à revenir à ta Torah. Achivez-nous, avez-nous les Torah Terra. Oui ? Quelqu'un veut dire quelque chose ? Oui, vas-y. Quoi ? Oui, alors on peut dire aussi une déperdition de la Torah avec les générations, ça aussi, ça évidemment. Hein ? Notre Torah a une insuffisance. Et donc il faut pour ça la Torah d'en haut. Pour ça que le Zohar dit sur le verset Et la sot la shem eferu Torah Terra. On dit c'est le moment d'agir en faveur de Dieu parce qu'on a transgressé ta Torah. Le Zohar explique ça comme ça. Et la asot la shem. Tout ce dont on s'occupe maintenant, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Et feru Torah Terra. Donc on a oublié ta Torah. Oui.
Est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah juste pour la connaissance de la Torah
c'est un philosophe. Quelqu'un qui étudie la Torah pour connaissance de la Torah.
Ouais,
c'est un intello.
Oui, mais c'est Dieu qui l'a écrit quand même. Donc,
ça dépend. Ça veut dire quoi ? Il sait que Dieu l'a écrit. On lui a dit. Mais est-ce que c'est ça la motivation de son étude ?
Non, c'est pas que Dieu l'a écrit, c'est qu'il y a, ce qu'il y a dedans, c'est intéressant. Parce que,
c'est intéressant. À cause de l'auteur ou à cause du contenu ?
Du contenu.
Ah, si c'est à cause du contenu, c'est justement le problème dont parlons ici. C'est le philosophe. Il fait de la Torah par philosophie. C'est pour ça que, par exemple, un hérétique, c'est les Chachamim, s'appelle un épicoros. D'où ça vient ce mot ?
Épicure.
Pourquoi est-ce que de tous les philosophes, les Chachamim ont choisi Épicure pour parler du mécréant ? La raison très simple, c'est que Épicure avait pour doctrine que la finalité humaine, c'est le plaisir de la pensée. Le plaisir de l'intelligence. Pour les Chachamim, l'intelligence, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui permet de vérifier la vérité.
Que l'intelligence, Épicure ? C'est pas le corps,
dire ? Non, ça c'est les Aristide de Cyrène, son maître. Mais en tout cas, lui, Épicure, c'est pas un épicurien. Aujourd'hui, en français, quand on dit un épicurien, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs. Mais la doctrine épicurienne, c'est pas ça. C'est qu'il y a une morale épicurienne qui est que la finalité de l'homme, c'est de s'occuper de la chose qui donne le plus grand plaisir du monde, qui est la connaissance. Mais dans ce cas-là, la connaissance n'est pas une fin en soi. Elle est importante parce qu'elle donne du plaisir. Vous savez, l'autre jour, on a eu une conférence, c'était extraordinaire, c'était d'un brillant, c'était merveilleux. Et qu'est-ce qu'il a dit, le conférencier ? Oh, je sais pas, mais il a très bien parlé. D'accord ? Donc voilà, c'est ça. Pour les Chachamim, il n'y a rien de pire que ça, de se servir de l'intelligence pour en avoir du plaisir. Tandis que, en vérité, la connaissance, elle sert à connaître la vérité. Ça fait autre chose. Oui ? Est-ce que ça serait la Torah selon Leibovitch ? Oui, bon, ça serait. Il faudrait définir, parce que. D'après Leibovitch, l'idée même d'avoir un plaisir n'est pas une finalité pour lui. Pour Leibovitch, il n'y a aucune finalité. Il faut étudier la Torah parce qu'il faut l'étudier point à la ligne, c'est tout. Ouais. Ouais.
Leibovitch,
bien sûr qu'il est à Teshvef. Oui. Non, ramène-nous. C'est-à-dire, on peut être aidé. J'ai pas dit qu'elle est inaccessible dans l'absolu. Mais. Non, ça ne dépasse pas. Ça dépend de quel point de vue. Du point de vue de la Neshama, ça ne dépasse pas. Du point de vue du Nefesh, ça nous dépasse. Oui.
Est-ce que les premières tablettes de la loi étaient plus proches de Dieu que les
diamants ? Oui, tu as essayé de dire ça tout à l'heure, les premières louchotes, oui, effectivement. Bon. Vekareveno, Malkeno, la Avodatera. Et rapproche-nous, ô notre roi, de ton service. Le service, il s'agit en particulier des sacrifices et de la prière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ici on dit notre Père et après on dit notre Roi?
C'est deux sentiments différents.
Parce que le Père, c'est Midat HaRachamim, c'est la proximité miséricordieuse, tandis que quand on est au service d'un roi, c'est Midat HaDin. Et donc quand on se met au service du Créateur, c'est en tant que roi. Quand on se met à l'étude de sa Torah, c'est en tant que notre Père. D'ailleurs, on dit dans les prières de Rosh Hashanah, « Im kebanim, im ka'avadim ». Nous sommes jugés par toi, soit comme fils, soit comme esclave. Alors, ça dépend de notre situation. « Ve'ahazirenu bitshuva shelema lefanecha ». Alors, pour l'instant, on a vu les deux premiers morceaux. On voit que ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer au troisième. Hein? Ah, ce qui t'embête, c'est la différence entre le premier et le troisième. Mais on a étudié le premier et le deuxième. Le troisième, on n'a pas encore étudié. Donc, il faut voir ce que ça veut dire. Donc, ça va, calme-toi. Yo. Bon, cool. Ve'ahazirenu bitshuva shelema lefanecha et ramène-nous en une tshuva entière devant toi. Alors, c'est quoi une tshuva entière?
De 0 à 100.
Ça, c'était Teshuva Gemura. Il y a une différence dans le Rambam. Il y a ce qu'on appelle une Teshuva Gemura, c'est-à-dire une Teshuva achevée. C'est quand on est dans la même situation dans laquelle on était amené à faire le péché et qu'on ne le fait pas, c'est là que se prouve l'absolu de notre volonté. On a véritablement changé. Ça, c'est Teshuva Gemura. Ça, c'est au niveau de ma conscience. Je veux être sûr que je ne veux plus faire le péché. La preuve que je ne veux plus le faire, c'est que je suis dans la même situation où je le faisais et je ne le fais pas. Mais là, on parle de Teshuva Shlema, et c'est pas la même chose. Teshuva Shlema, c'est une interprétation du Rav Kook, c'est quand on ne connaît pas les conséquences de nos actions. Et donc, je ne sais jamais si ma Teshuva est Shlema ou pas. Exemple de cela. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que je peux me garer ici, s'il vous plaît? Je lui dis, va donc et patate! Bon, le type très embêté, honteux, s'en va. Bon. Alors, moi, je me suis mal comporté parce que j'aurais pas dû lui dire va donc et patate. Ça se dit pas une chose pareille. C'est pas une expression talmudique parce que les patates étaient inconnues à l'époque des Chachamim. À l'époque du Talmud, ça vient des Amériques. Mais enfin, malgré tout, c'est pas une chose à dire parce que ça l'a humilié et c'est une transgression d'un des commandements de la Torah de ne pas faire de peine à son prochain, etc. Maintenant, je fais teshuva. Je viens lui dire, écoute, voilà, je m'excuse profondément, je m'en veux de t'avoir humilié, je te demande pardon, etc. Je demande à Akadosh Baruch Hu pardon également. Je lui dis, écoute, j'aurais pas dû, j'ai transgressé ton commandement qui est de ne pas humilier son prochain, je ne le ferai plus, etc. Bien, teshuva. Point de vue de la teshuva formelle, nickel. Hein? Tout blanc. Mais en vérité, j'ai pas fait teshuva hein, sur ce que j'ai fait. Parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences de ce que j'ai fait. Parce que ce type-là, quand je lui ai dit « va donc et patate », il était très embêté. Il est rentré à la maison avec la tête un peu en bas. Sa femme lui dit « pourquoi tu fais encore la gueule comme tous les jours ?» Lui, ça l'énerve, il lui donne une baffe. Elle s'adresse à la police. Il est éloigné de sa maison pour un mois. Et donc, il est obligé de prendre des transports publics pour arriver à son travail. Et il arrive en retard. Il se fait renvoyer. Finalement, il n'a plus de parnassa. Il divorce. Il tombe dans le crime. Il est envoyé en prison. Quand il sort, pour s'en sortir, il fait du trafic de drogue. Et donc, énormément de gens sont atteints par cette drogue qui détruit des familles, qui détruit des consciences, etc. Tout ça par une petite phrase de quelques mots. Va donc et patate. Hein? C'est l'effet papillon, exactement. Hein? Donc si je veux véritablement faire teshuva, je dois savoir exactement toutes les conséquences pour savoir ce que j'ai fait. Or ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir jusqu'où est-ce que mes actions arrivent. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je lui ai dit, va donc et patate, ce que j'aurais pas dû dire. Donc la teshuva, elle est peut-être achevé de mon point de vue, même Teshuvah Gemura, puisque je repasse devant lui que non seulement je ne l'humilie plus, je lui demande pardon et tout ça, mais je n'ai pas fait une Teshuvah chez les mains, puisque je ne connais pas les prolongements de mes actions. Or, les prolongements sont infinis. Donc la Teshuvah, de ce point de vue-là, devrait être impossible. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu accepte ma Teshuvah, parce qu'il complète ce que je ne peux pas faire, ou ce que je ne peux pas savoir. C'est pour ça que la Teshuvah est chez les mains, l'Efanecha, devant toi. C'est toi qui sais jusqu'où elle va, la Teshuvah. Oui.
Il est considéré comme responsable, le bonhomme qui l'a envoyé en prison. Enfin, le bonhomme qui lui a dit va donc être là. Sur tout ce qu'il a fait, c'est lui le responsable.
Quoi, tu veux dire juridiquement, formellement? Non.
Selon la Torah.
Selon la Torah, non. Mais dans la réalité, oui. Il y a une certaine responsabilité. Non, mais. Mais si le type le savait. Non, mais disons, imagine par exemple, imagine.
J'imagine.
Que ce type, il apprend tout ce qui s'est passé. Il va effectivement devoir faire teshuvah pour tout ça aussi.
Oui.
Ah, si. Parce qu'il sait maintenant ce qu'il a fait. Il sait la gravité de son acte.
Mais lui, c'est allumette, tout le reste est du gaz. C'est pas lui le gaz. C'est tous ces problèmes qu'il avait avant.
Ah oui, alors tu dis comme ça. Si j'ai volé une allumette et qu'à cause de ça, ça a flambé à un bâtiment tout entier. Ouais. Alors je dis, voilà, je suis responsable d'avoir volé une allumette, donc je vais devoir payer l'allumette.
Ça dépend si le bâtiment était déjà inflammable parce qu'il est respecté. Non. Alors du coup, c'est pas ça.
Alors, ce que tu cherches ici les limites juridiques, et tu as raison. La juridiction nous permet justement de faire des limites à nos actions. Parce que sinon, on n'en sort plus. D'accord? Mais il y a également la vérité. La vérité est que j'étais au début d'une chaîne. N'est-ce pas? Quoi?
Ben, je ne serais pas logique du tout.
Pourquoi ça?
Je vois pas en quoi il devrait faire teshuvah sur la personne qui a eu vendre de la drogue après. Ça a été un problème, c'est pas la cause.
Il en a été la cause.
Non, mais celui qui fait.
Il a été une cause indirecte.
Il a juste allumé une allumette. C'est pour ça, hein.
Oui, mais quand on allume une allumette, on va savoir ce qu'on fait.
Mais oui, mais la bombe de gaz, c'est pas lui qui l'a créée.
Le dealer et celui qui a dit va donc et patate, ils font tous les deux teshuvah, pas la même teshuvah. Mais ils font tous les deux teshuvah. Parce que il y en a un, il est à l'origine de tout ça. Mm-hmm. Et l'autre, il a quand même utilisé sa raison en disant.
Oui, alors tu dis effectivement, c'est pas une responsabilité totale. Parce que le type qui a vendu la drogue, ben, il aurait dû penser quand même.
Voilà,
oui, bon, d'accord.
Parce que c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pour n'importe quoi. Je peux te donner un exemple à plus grande échelle. De toute façon, Hitler, ce qu'il a fait, c'est parce que.
Marchez-moi.
Quand il était jeune, c'est peut-être un juif qui l'a frappé ou
insulté,
et après ça a
pris
des
conséquences. Oui, effectivement, oui. Ou bien parce qu'il y a un juif qui l'a pas tué, enfin oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais la Guémara, elle cherche des choses comme ça. Par exemple, elle demande d'où est-ce qu'il est né Amalek. Amalek, hein. On voit bien, Amalek, il veut détruire Israël. Hein. L'exemple que tu as amené, c'est Amalek. Eh bien, la Guémara dit, c'est parce qu'il y a une frustration de sa mère, qui était Timna. Parce qu'elle voulait se convertir, elle est allée voir Abraham, et Abraham l'a refusé. Elle est allée voir Yitzhak, et Yitzhak l'a refusé, et Yaakov l'a refusé. Alors elle est devenue la concubine de Eliphaz, le fils d'Esav, pour être dans la famille d'Abraham. La concubine de Eliphaz, le fils de Esav, qui était le frère de Yaakov, et donc il était fils d'Yitzhak, petit-fils d'Abraham, parce qu'elle voulait, elle voulait être dans la famille d'Abraham. Et cette frustration a été transmise à son fils. Et c'est ça qui a donné à Amalek. Donc la Guémara, elle cherche l'origine de... Ouais, non, la Guémara, elle cherche l'origine des catastrophes qui nous arrivent dans notre propre comportement. Maintenant, le problème, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient raison de la rejeter. Ils avaient des bonnes raisons. Mais malgré tout, le fait qu'ils avaient des bonnes raisons, ça n'a pas empêché finalement qu'à cause de ça, il se passe ce qui s'est passé.
Du coup, ils sont fautifs. Du coup, ils ont fait des fautes.
Oui, ils sont fautifs de quoi? D'Amalek.
Oui, mais attendez, on va avoir...
C'est-à-dire, on cherche Amalek dans notre propre comportement. Ouais. Ouais, c'est... Bon, alors, je sais bien que ça vous fait peur, tout ce que je dis là, parce que dans ce cas-là, on peut plus bouger un petit doigt. D'accord? Mais, justement, c'est pour ça que nous avons ici une grâce qui nous est donnée par un Kadosh Baruch Hu, qui est qu'il considère notre Teshuvah comme suffisante. D'accord? Vous comprenez? La Teshuvah est un miracle, d'une certaine manière. Elle est suffisante du fait que je n'agis que dans la sphère de ce qui m'est connu.
Oui. Si je fais des chevaux, est-ce que Dieu, maintenant, va venir limiter les conséquences de mes actes?
C'est ce qu'on demande.
Si je fais des chevaux, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va limiter les conséquences de mes actes? Peut-être, peut-être que non, Dafka. Il s'en servira pour en faire des bonnes choses. D'accord?
C'est ce qu'on demande, en fait.
Oui, c'est ce qu'on demande. Tes chevaux, chez les mains, les fanera. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on avait dit tout à l'heure que cette bénédiction... Ne parlez pas de la teshuvah sur les péchés. De la teshuvah sur les péchés, c'est plus tard.
C'est la percussion,
c'est pas un péché.
Quoi? d'avoir dit va donc les patates, c'est péché.
Ben
si. Il y a dans la Torah une interdiction de faire de la peine à son prochain. L'autonomie chez Tarfi.
Pourquoi il y a la faute de l'État ?
Hein ?
Oui,
disons que ça suppose que de toute manière on a quand même fait des péchés, et donc si déjà on a parlé de la teshuvah, alors on parle également au passage de la teshuvah sur les péchés. D'accord ? Quoi ? On n'a pas encore. Ah, pourquoi parler ici ? Bah parce que, indépendamment de la réparation du péché, il y a également la réparation de la personne. La réparation de la personne, c'est révéler la teshuvah antérieure au péché qui est en nous. Baruch Ata Hashem, oui, quoi ? Je voulais
savoir comment Hashem va compléter en fait.
Bah, demande-lui. Baruch Ata Hashem, Arotse Bitshuva. Si on a une idée, par exemple, les frères de Yosef, ils l'ont vendu. Ça se fait pas de vendre un frère. Hein.
C'est pas une...
Comment ? Et des fois, on aurait bien envie. D'accord, bah justement, ils ont envie. Bah justement, mais c'est pas bien.
C'est péché,
oui. Ils ont fait teshuva. Hein. Ils ont essayé de péché. Et alors, ils ont fait teshuva. Hein. Ils ont fait teshuva. Et alors, on voit dans la Torah que Yosef leur dit, vous avez voulu faire du mal, mais Akadosh Baruch Hu s'en est servi pour faire du bien. Pour sauver le monde de la famine. Baruch Ata Hashem Harose Mishuba. Tu es source de bénédiction éternelle qui veut la teshuva. Alors ça veut dire quoi ? Qui veut la teshuva ?
Et lui, il veut qu'on fasse teshuva.
Voilà. Il y a ici, c'est nulle part ailleurs, on voit l'expression de rotse, l'expression de vouloir dans le reste des bénédictions. On ne dit pas par exemple a rotse birfoua, qui veut la guérison. Pourtant, il la veut. Alors pourquoi avoir insisté ici sur rotse ? C'est parce que dans la teshuva est une action de quoi ? De quelle partie de moi-même ? De la volonté. C'est-à-dire, quand je ne fais pas teshuva, je voulais le mal, maintenant je veux le bien, j'ai changé de volonté. D'accord, alors, mais le problème c'est l'acte mauvais que j'ai fait. Je l'ai fait par ma volonté. Maintenant j'ai changé de volonté, donc l'acte ne m'est plus attribué. Ce n'est plus à moi. Très bien. Mais l'acte, il existe quand même. Qui c'est qui le veut ? Hein ? L'acte, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est Akadosh Baruch Hu qui le prend en charge.
La faute ?
Ouais.
C'est trop simple.
C'est extrêmement simple.
Non, mais moi, je vais frapper quelqu'un, je vais le tuer, puis je dis, ouais, je me suis. Et Dieu, il prend sur lui la faute.
Si tu as fait tes chouvas. C'est-à-dire, tu tues quelqu'un, tu fais tes chouvas.
Je dis, je ne recommence plus à mal tuer. Mais je l'ai tué quand même, et tu vois là, c'est Dieu qui prend la faute.
Ouais.
Alors, on peut tuer.
Est-ce qu'on peut tuer ? Non, c'est interdit de tuer.
Si, je vais faire tchouva. Je vais, ouais, je vais tchouva, je vais prendre la faute et je vais arriver là-haut et c'est bon.
Ouais, ça marche.
C'est bon, ça.
Non, mais non, il y a un problème. Alors, alors là, il y a une Mishnah, bien connue dans le traité de Yoma, qui dit « Ha'omer echeta ve'ashuv echeta ve'ashuv ». Celui qui dit « Je vais pécher, puis faire tchouva, puis pécher, puis faire tchouva ». On ne le laisse pas faire teshuva. Pourquoi ? Parce que si j'ai le projet de péché pour faire teshuva, alors ça veut dire que ce qui m'attire, c'est le péché et pas la teshuva. Donc je suis aimanté par le péché. C'est pour ça qu'on ne veut pas prévoir à l'avance de faire le péché pour après faire teshuva. Ça ne marche pas. Je vois pas très bien la différence. Non, non. Dans le système chrétien, il n'y a pas de teshuva. Il y a l'expiation, c'est autre chose. Il y a la capara.
Ils ont
cette notion de capara.
Ils vont s'agenouiller dans le
prêtre. Ils s'agenouillent dans le truc, oui.
Il dit, bah, écoute, lis ça et il n'y a plus.
Il y a donc ce qu'on appelle la capara.
C'est ça, la capara ?
Oui.
C'est la teshuva un peu, non ?
Non, ça n'a rien à voir avec la teshuva. Ils ont une expression péché avoué, à demi ou à moitié pardonné. N'est-ce pas ? À moitié pardonné. Pourquoi est-ce qu'il est pardonné ? Parce qu'il est avoué, pas parce qu'il y a eu teshuva. Et puis après, trois avers et deux pâtés, ça fait...
Oui, là, pâtés.
C'est là, oui.
Vous êtes sûr que des pâtés? Je sais que c'est des pâtés. Ouais.
Trois avers et deux pâtés, ça te va? Bon, alors ça te fait... Ça continue l'expiation. Mais attention, l'expiation est possible parce qu'il y a eu la passion. Et que la passion, si tu y crois, eh bien, elle fait pour toi le travail de l'expiation. Qu'est-ce que ça a rapport avec la Teshuvah selon Israël? Rien. C'est la Teshuvah selon nous, c'est tout à fait autre chose. C'est que le déracinement, comme dit le Ramchal, le déracinement de la volonté est considéré comme le déracinement de l'acte. Akirat ha-ratson ka akirat ha-ma'ase. Est-ce que chez les musulmans, il y a un truc comme ça? Non, évidemment pas. Enfin, chez les sunnites, en tout cas, il n'y a pas. Il n'y a pas... La notion de péché, chez les musulmans, est très différente de chez nous. Parce que le péché, chez nous, est un acte volontaire. Or, pour l'islam, la volonté humaine n'existe pas. Elle est une illusion.
Mais dans les deux cas, quand on tue dans la guerre, quand on fait une guerre...
Quand on fait une guerre,
oui. On tue un homme.
On tue un homme. Pourquoi c'est une forme de péché? Est-ce que tuer un homme, c'est un péché?
Défense,
ça dépend.
Tu peux tuer.
Parfois, c'est un péché. Parfois, c'est une mitzvah. Parfois, c'est autorisé. D'accord? C'est-à-dire que, comme tous les actes, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de mentir? Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, c'est un devoir. N'est-ce pas? C'est comme si par exemple quelqu'un te dit, se ramène avec son revolver, il cherche Bébert. Où est Bébert? Toi tu sais où il est.
Là-bas.
Ouais. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Il est parti par là-bas, alors qu'en fait c'est très bien qu'il est derrière ta porte. N'est-ce pas? Il fallait sauver Bébert. Dans d'autres cas, c'est où est Charlie, mais c'est dans un autre contexte. Oui? Oui. Alors j'ai expliqué que la Teshuvah est une opération dans laquelle la volonté du Créateur prend la place de la volonté de l'homme. Donc, Harotse Bitshuva.
C'est pas parce que la Tshuva, c'est l'homme de nous.
Oui.
Dieu veut qu'on fasse Tshuva.
Oui.
La foi de notre part, nous allons donner nous-mêmes. Pas nous auto-soigner, en fait.
On peut. Quoi? On va chez le médecin. On va chez le médecin.
Mais le médecin, c'est qu'un pantin de ce qu'il a été demandé.
Je veux bien, mais dans ce cas-là, tu devrais pas le dire. Ça prouve qu'il faudrait dire arroté birfois.
C'est pas arroté de notre action.
Ça veut dire qu'il mêle sa volonté à notre volonté. Arroté bichoua. À part ça, on pourrait très bien dire que quelques jours, ils s'en fichent pas mal qu'on fasse teshuva ou pas. Que si ceux qui font teshuva sont épargnés, sont récompensés. Ceux qui font pas sont punis. On peut dire que pour Akadosh Rou, c'est égal. Il s'en fiche pas mal de savoir si on a fait teshuva ou pas. Non, alors la réponse est qu'il veut qu'on fasse teshuva. Arotze, mais tu vois. C'est-à-dire, le bien est préférable au mal. Il y a un texte surprenant dans le Midrash Rabbah. Vayavdel Elohim ben Aor ou ben Achosher. Elohim a séparé le bien. Non, il a séparé la lumière des ténèbres. Et le Midrash explique. La lumière, ce sont les actions des tzadikim. Et l'obscurité, c'est les actions des rechaïm. Ouais, pas mal ton doigt. Et le Midrash dit, Ve'adain, tenez-vous bien, c'est un Midrash extrêmement surprenant. Le Midrash dit, cool, une seconde, je suis en train d'expliquer quelque chose. J'ai vu que tu lèves le doigt, mais je peux pas. Non, pas forcément. Le Midrash nous dit, la lumière, c'est les actions des tzadikim. Les ténèbres, c'est les actions des rechaïm. Ve'adain eni yodea ezemem adif. Et je ne sais pas laquelle est préférable. Réponse du Midrash, Keshehu Omer, mais quand il est dit, Vayar Elohim et Taor Kitov, et Dieu vit que la lumière était bonne, yodea ani shema'ase tzadikim adifim. Je sais alors que les actions des tzadikim sont préférables. Incroyable ce Midrash. Est-ce qu'on aurait pu penser que les actions des méchants sont préférables aux actions des tzadikim? Ça ne va pas. En fait, il faut comprendre ça différemment. C'est que le Midrash nous parle de quelqu'un qui veut réaliser la volonté de Dieu. Or, il voit qu'il y a deux manières de réaliser cette volonté. Soit en récompensant les tzadikim, soit en punissant les réchaïm. Donc, la punition des réchaïm fait partie de la volonté de Dieu. Donc, on peut très bien se porter volontaire pour être parmi les réchaïm qui seront punis. C'est ce qu'on aurait pu penser. C'est pour ça que la Torah nous a dit, non, Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu a vu que c'est la lumière qui était bonne. Ça veut dire qu'il veut, il préfère qu'on fasse le bien pour en être récompensé, et non pas qu'on choisisse le mal pour en être puni. Ce qui s'introduit également dans notre texte. Harotse Bitshuva. Il désire qu'on fasse Teshuva. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Dans ce sujet.
Ah, oui.
Ben,
par exemple, c'est le cas du Mekoshesh. Le Mekoshesh. Tu connais pas personnellement? Effectivement, il est mort il y a très longtemps. Le Mekoshesh, c'est celui qui a transgressé le Shabbat au temps de Moshe. Mekoshesh et Tzim. Alors, que veut dire exactement le mot Mekoshesh? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fendu du bois? Est-ce qu'il a ramassé du bois? Enfin, pendant le jour du Shabbat, il s'est fait lapider. N'est-ce pas? Oui. Et la Gemara dit Mekoshesh, l'Eshem Shamaim Mitkaven. L'intention du Mekoshesh était pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les gens méprisaient le Shabbat. Alors il a dit, je vais transgresser le Shabbat pour être lapidé, pour que les gens sachent que c'est important. D'accord? Ça, c'était l'opinion du Mekoshesh. Alors c'est ça que le Midrash vient réfuter. Le Mekoshesh a tort. Il ne doit pas préférer transgresser pour être puni. Il vaut mieux ne pas transgresser et être récompensé. D'accord? Oui? Non, tu confonds avec le Mekalel. Il y a le Mekalel et il y a le Mekoshesh. Ce sont deux choses différentes. Deux personnes différentes. Quoi? Ouais. Le Mekalel, oui. Il y a le Mekalel, le blasphémateur, et il y a le Mekoshesh. Oui. Passons donc à la bénédiction à venir. Selah lanu avinu hatanu. Effectivement, maintenant, à partir du moment où il y a éloignement, on peut s'éloigner encore plus. C'est le péché. Il y a trois manières de faire le péché. Il s'appelle Het, Avon, Pécha. Het, c'est le péché involontaire. Non, pas involontaire, par inadvertance, par un manque d'attention. Il s'appelle Shogeg. Ouais. Par négligence. C'est pas la même chose. Il y a par...
Non, c'est... Par inadvertance,
Oui, mais c'est pas involontaire. Non, non, l'inadvertance est volontaire, mais ça vient de la négligence. Par exemple, j'ai pris une hache pour couper du bois. Mais je n'ai pas bien vérifié que le fer et la manche sont bien enfoncés l'un dans l'autre. Ce qui fait qu'au moment où j'ai levé ma hache, paf, il y a le fer qui est parti et qui a tué quelqu'un. Alors, j'ai une responsabilité. Je n'ai pas voulu tuer la personne. Mais je suis responsable de ne pas avoir vérifié que le fer était bien enfoncé. N'est-ce pas? Ça s'appelle shogeg. Ou bien het. Il y a avon. C'est le péché volontaire. Voilà. Ce type, je peux pas l'encaisser. Je l'ai tué. Voilà. Ça, c'est péché, bien sûr. Non, ça, c'est Ravon. Ah, bon, ça s'appelle Méside. Il y a Pécha, c'est pire. Je fais ça pour me révolter contre celui qui m'a donné la mitzvah.
C'est la troisième. C'est
la troisième. Het, Avon, Pécha. Donc, Avon est intermédiaire entre Het et Pécha. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, le texte?
Au moment où tu en es, c'était
Avon. Avon, bien sûr. C'est interdit. Écrit dans la Torah, tu ne tueras pas.
C'est l'autre qui est ça. Parce que Dieu nous dit que c'est vrai, faut pas tuer. Donc ça va contre.
Non. Parfois, je le fais parce que je suis emporté par mes instincts. J'ai la rage contre lui. D'accord?
C'est péché.
Non. Le péché, c'est si je le fais uniquement parce que je me révolte contre Dieu. C'est assez rare. C'est assez rare, cette forme-là. Ça existe. Mais c'est rare.
Moi,
maintenant, c'est là, lanu avinu kihatan. Ah oui, bah, il dit. Voilà, tu manges à Kippour, mais pourquoi tu manges à Kippour? Ben, est-ce que tu as faim? Non, je n'ai pas faim. Mais alors pourquoi tu manges? Ben, pour embêter les rabbins, voilà. Mais en vérité, je préférais ne pas manger tellement j'ai trop mangé avant, je voudrais jeûner, mais je ne jeûne pas uniquement pour embêter les rabbins. Voilà, ça s'appelle le Pécha. Hein?
J'ai des boulettes avec trois gouttes de lait.
Des boulettes avec trois gouttes de lait. Tu as déjà décidé que c'était interdit. Mais c'est un sujet qui n'a pas été résolu. Est-ce que j'avais dit que ça dépendait des cas et tout ça? Oui. Ça veut des boulettes de poisson, par exemple. Bon, on peut continuer là. C'est bon, écoute, on veut étudier là. C'est l'achlanu avinu ki hatanu. C'est l'achlanu avinu ki hatanu. Pardonne-nous, ô notre Père, car nous avons péché par inadvertance, par négligence. C'est le shogeg. Donc, c'est comme c'est shogeg, Akadosh Baruch Hu est appelé ici notre Père, avinu. Mais hol lanu, malkenu ki fashanu. Pardonne-nous, notre roi, parce que qui fashanu, car nous nous sommes révoltés. C'est-à-dire quand c'est un acte de révolte, alors évidemment, ça nous met en situation de révolte contre l'autorité, contre le roi. Et le Havon, dans tout ça, où il est? Il a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce qu'il est intermédiaire. Donc il est implicite entre le Hed et le Pécha, il y a le Havon. Qui el tov vesalah ata, car tu es un Dieu bon et pardonneur. Baruch ata Hashem, Hanun, Hamar Bed Ispar, je prends ici la version la plus courante. Tu es sur la bénédiction éternelle, gracieux, qui abonde en pardon. Alors, d'abord, le qui abonde en pardon, ça veut dire quoi? Marbé l'histoire. Parce qu'il y a différentes manières de pécher, donc il y a différentes manières de pardonner. Il y a différentes motivations de la teshuvah. Il y a donc différentes manières également d'accepter la teshuvah. Il y a la teshuvah par crainte, la teshuvah par amour, par exemple. N'est-ce pas? C'est ça donc là, le péché. Donc le péché ici intervient comme une option possible après la connaissance. Donc il y a Teshuvah et après Selicha. Il y a ici un mot un peu rare, le mot Mechol. Mechol ou Mechal. Dans la version Ashkenaz, on dit Mechallan. Dans la version Sepharad, Mechol. Ce verbe, Limchol, qui veut dire pardonner, comme le mot l'histoire, est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Ça se trouve dans la littérature de la Mishnah, de la Gemara. Donc chez les Chachamim, on trouve le mot limchol, mais dans le Tanakh, ce mot n'apparaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Parfois, il y a des mots qui étaient utilisés à l'époque du Tanakh, qui n'ont pas été introduits dans le Tanakh, parce qu'on n'en avait pas besoin. Enfin, faites bien attention à ça quand même, c'est que quand on dit limchol, c'est un mot rabbinique, c'est pas un mot biblique. Ça, à l'origine, le mot limchol signifie renoncer à une dette. Quelqu'un me doit de l'argent et je renonce à la dette. Ça s'appelle mehila. C'est ça? C'est quelque chose qui demande donc de revenir à l'origine de la dette. C'est comme si la dette n'avait jamais eu lieu. C'est vrai que tu me dois, mais je renonce. Ça veut dire, faisons comme s'il n'y avait jamais eu cette dette. Effectivement, dans le pécha, donc c'est plus grave, on a besoin de revenir plus en arrière. Tandis que dans la mihil, dans le chet, il y a seulement slicha. C'est vrai, tu as fait, mais c'est pas si grave que ça, donc ça peut être effacé. D'accord?
C'est un problème qu'en français, on est traduit ces trois choses par le mot péché, par le plus grand, en fait.
Oui, c'est pas vraiment un problème, c'est une façon de parler, c'est les insuffisances de la langue. Chaque langue a ses qualités et ses défauts. Ça amène à une incompréhension, oui, mais il y a un avantage, ça me permet de donner un cours. Et donc de justifier mon salaire, par exemple. D'accord? Sans quoi, on dirait, mais qu'est-ce qu'il y enseigne? Il enseigne des choses qu'on sait déjà. Ça serait inutile. Quoi? Ce serait simplement pour gardien d'enfant? Non, ça, c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas venu pour ça. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Inch'Allah.